le titre que j'ai choisi ce matin, donc des coachs pour la catéchismos des chrétiens. Vous savez que nous sommes en train de voir depuis quelque temps ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, à propos des serviteurs de la parole que le Seigneur a donnée à l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes et pasteurs enseignants. Après les avoir présentés, il dit au verset 12 et 13 à quoi ils servent et quel est le grand objectif de leur service. Je lis, « Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. » Ce court passage de l'Écriture me fait penser à l'un des mots à la mode, très à la mode aujourd'hui dans tous les milieux, dans le management des entreprises, dans le milieu sportif, etc., etc., le mot « coach ». Le mot « coach » qui est utilisé pour désigner donc les entraîneurs. Il semblerait que ce mot vient de « coche », grande voiture à cheval. Je suis allé fouiller un petit peu l'histoire de ce mot et bon, je ne sais pas si les anglophones sont d'accord avec moi, mais ça ne vient pas de l'anglais apparemment. Au XVIe siècle, le village hongrois appelé Kocsi s'est mis à développer les premiers transports en carrosse, donc en voiture attelée. Et à l'époque, le coche permettait d'emmener quelqu'un quelque part. Petit à petit, le terme « coach » est venu à désigner donc l'entraîneur qui a pour mission d'aider les personnes qui lui sont confiées à développer, à utiliser leur plein potentiel en découvrant des nouvelles possibilités qui leur seront sans doute très utiles pour les amener à atteindre des objectifs fixés. Et dans le milieu sportif, le coach est celui qui entoure donc une équipe de sportifs pour les amener, pour les conduire vers la victoire, vers la gloire. Or, quand je lis ce passage de l'apôtre Paul, c'est ce mot-là qui me vient à l'esprit pour désigner donc le ministère de ces serviteurs de la parole. Le rôle principal de ces hommes, ces personnes que Dieu a donné à l'Église. Ces serviteurs, et notamment les pasteurs enseignants, sont donc les coachs que le Seigneur a donné à l'Église pour le plus grand bien de celle-ci. Le grand objet de leur ministère, c'est d'agir comme entraîneur de l'Église, entraîneur des croyants que le Seigneur a confiés à leurs soins. L'apôtre Paul dit « Il a fait don de ces hommes » pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans l'Église de Jésus-Christ, qui a été établie sur terre pour accomplir une mission spéciale, une mission précise que nous trouvons dans la parole de Dieu, l'Église, qui est le cadre idéal choisi par Dieu pour l'accomplissement de son plan pour chacun de nous, pour l'être humain, dans l'Église, il y a des serviteurs responsables de permettre à leurs frères et sœurs d'utiliser leur plein potentiel au service du Seigneur. Des serviteurs dont le ministère consiste sans doute à créer les conditions nécessaires, les conditions idéales pour que les uns et les autres accomplissent leur mission, leur fonction, avec joie et dans la fidélité au Seigneur. L'apôtre Paul dit que c'est leur rôle à eux, à ses serviteurs de la parole, de fournir aux uns et aux autres dans l'Église l'équipement nécessaire à leur fonction. C'est leur rôle d'équiper les chrétiens à l'utilisation de leurs dons. C'est leur rôle de travailler, comme dit la traduction, la nouvelle Bible seconde, au perfectionnement de tous les saints. C'est vrai que je n'ai pas choisi cette traduction ce matin parce que je n'aime pas trop ce mot perfectionnement. Ce mot perfectionnement peut donner l'impression d'un parcours sans faute, or ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce dont Paul parle ici, c'est d'un chemin, d'un processus pour amener les chrétiens plus loin encore, plus loin dans le chemin de la croissance spirituelle, plus loin dans le service, dans la consécration au Seigneur. Cela veut dire que les pasteurs et les autres serviteurs de la parole ne sont pas là pour confisquer, comme on dit, tous les ministères de l'Église, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas là pour les monopoliser ou pour les étouffer. Ils ne sont pas là pour étouffer toute initiative qui ne viendrait pas d'eux. Le rôle du pasteur et des serviteurs de la parole, c'est de favoriser l'utilisation des dons et des autres. D'ailleurs, on l'a dit et redit, personne n'a le monopole de quoi que ce soit dans l'Église. Personne. Personne n'a le monopole de quoi que ce soit dans l'Église. Le rôle des uns et des autres, c'est finalement d'être des facilitateurs de vie, des facilitateurs de travail, des facilitateurs d'activité, des facilitateurs d'initiative dans l'Église pour le Seigneur. Et le rôle des responsables de l'Église, et notamment des serviteurs de la parole, c'est donc de favoriser tout ça, c'est d'accompagner, c'est d'aider, c'est d'encourager et de former même, n'est-ce pas, leurs frères et sœurs à l'utilisation de leurs dons, donc le Seigneur leur a accordé pour le service chrétien. Cela veut dire que ce que les serviteurs, ces serviteurs de la parole prêchent et enseignent dans l'Église, mais aussi dans des conversations privées, doit viser à faire de leurs frères et sœurs un peuple de serviteurs, un peuple de serviteurs, une Église de gens au service du Seigneur. Je devais dire une église de gens au service des gens, parce que en servant les gens, on sert le Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Une église, pour utiliser un mot biblique, une église de diacres. Une église de diacres où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ, nous dit l'apôtre Paul. C'est d'ailleurs le mot diacre, encore un mot grec, n'est-ce pas, qui apparaît dans ce texte. L'apôtre Paul utilise ici donc ce mot, qui est parfois traduit par ministère. Ce mot, nous l'utilisons souvent dans nos églises, n'est-ce pas? Je trouve ce mot aussi un peu pompeux. Hein? Ministère, hein? Ministre. Certains aiment mettre leur nom sur les cartes de visite, n'est-ce pas? Avec leur nom, et tout de suite après, ministre de l'Évangile. Bon, d'autres font pire encore, hein? Révérend. Révérend pasteur, j'ai vu ça, révérend pasteur, etc. Arrêtons, nous sommes des serviteurs. L'apôtre Paul se présentait comme l'esclave du Seigneur. Nous sommes des serviteurs. C'est pour ça que j'ai aimé l'autre fois le tableau qui a été présenté, où le pasteur était présenté un peu comme l'éboueur de l'église, n'est-ce pas, le concierge. Dans l'église, nous sommes donc tous des diacres, des serviteurs. Il y a des serviteurs, les serviteurs de la parole, et il y a les serviteurs dans d'autres domaines de l'Église, dans d'autres activités, peut-être plus pratiques, mais nous sommes tous des serviteurs pour accomplir la mission que le Seigneur a confiée à son Église. Et le but ultime, dit l'apôtre Paul, c'est l'édification du corps du Christ, c'est-à-dire l'édification, la construction de l'Église. Le but ultime, c'est de faire de l'Église un corps saint, qui fonctionne bien, un corps qui grandit bien, un corps uni dans la foi, un corps uni dans la connaissance du Seigneur, un corps uni aussi dans le service pour le Seigneur. Or, l'apôtre Paul utilise au verset 12 un mot grec, un mot clé dans ce texte pour nous expliquer tout cela, le mot catharthizo, catharthizo, mot très riche, trop riche même pour être rendu par un seul mot en français ou dans les autres langues, n'est-ce pas? Il a été traduit de diverses manières selon les versions, j'ai vu quelques-unes. Il a été traduit par rendre apte, équipé, perfectionné, formé, mettre au point pour, Je n'ai pas vu toutes les versions, mais je sais qu'il y a encore d'autres traductions, d'autres possibilités. La Bible Parole de Vie, que quelques-uns possèdent, traduit ce verset de la manière suivante: par ses dons, le Christ a voulu former, c'est le mot qu'il utilise, former ceux qui appartiennent à Dieu, ainsi ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Catharptizo veut dire tout cela. Il veut dire rendre apte, capable d'accomplir sa tâche, sa fonction, capable d'accomplir un certain travail, une certaine fonction, équipé, donner les moyens de faire quelque chose, former. Donc c'est tout ça. Ce mot désigne, par exemple, le travail très délicat de l'ouvrier à qui l'on confie une machine bien construite, mais qui n'a jamais fonctionné et qui n'est pas encore en état de marche. Donc cet ouvrier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va l'essayer, il va la roder, il va la mettre au point, va lui faire rendre le maximum de ses possibilités. Il est utilisé, par exemple, dans Matthieu chapitre 4, verset 21, pour expliquer que Jacques et Jean étaient en train de réparer leur filet pour la pêche. C'est ce mot-là qui apparaît dans le texte. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire exactement ? Ils étaient en train de nettoyer, d'enlever les résidus de la pêche. Ils étaient en train de réparer les filets et de remplacer ce qu'il fallait remplacer, n'est-ce pas ? De corriger ce qu'il fallait corriger, ce qui était usé. Et ensuite, ils disposaient les filets dans un certain ordre pour pouvoir être à nouveau opérationnels, prêts à être utilisés. Une autre image qui explique bien la signification de ce mot, c'est celle de l'orthopédiste. Celui, le médecin, donc le chirurgien qui redresse l'os cassé, l'os disloqué, et qui le remet donc à sa place pour qu'il puisse à nouveau fonctionner et permettre au corps, n'est-ce pas, de reprendre à nouveau sa marche. En grec, on appelait cette intervention de catharptizo. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul emploie ce mot pour dire en quoi consiste ce ministère auprès des chrétiens. Il dit « à suppléer à ce qui manque à leur foi ».« À suppléer à ce qui manque à leur foi », c'est-à-dire à la compléter. Notre traduction dit « à les amener plus loin dans le domaine de la foi ». Encore le même mot qui est employé dans ce verset. Dans Galates chapitre 6, verset 1, l'apôtre Paul emploie ce mot pour nous dire comment nous devons agir vis-à-vis du frère qui commet une faute. Et il dit dans une traduction, redressez-le, c'est encore le même mot, redressez-le avec un esprit de douceur. Ou alors une autre traduction qui dit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Bref, tout cela pour dire que l'idée fondamentale de ce mot, c'est en fait de mettre quelque chose ou quelqu'un en état de fonctionner, d'accomplir son rôle de la meilleure manière possible. Donc le sens de notre passage ce matin se dessine, n'est-ce pas ? Il s'agit, en fait, dit l'apôtre Paul, de mettre les chrétiens en état d'accomplir leur mission, les former, les aider, les guider, les redresser, les corriger, pour qu'ils accomplissent leur service de la meilleure manière possible. Les serviteurs de la parole dans une église sont donc des formateurs, des réparateurs. Et dans ce sens-là, on pourrait dire que l'église est, bon, je ne vais pas dire un centre de redressement, parce que cela pourrait être mal compris, mais un centre de formation. Un centre de formation, un atelier, une école pour les chrétiens, un lieu d'apprentissage. Une école qui a comme charte de formation, on pourrait le dire, ce que l'apôtre Paul nous dit dans ce passage d'Éphésiens 4. Pour revenir à ce que je disais la dernière fois, il y a 15 jours, je pense, l'Église ne doit pas se contenter d'accoucher de nouveaux-nés spirituels. Il faut encore les nourrir. Il faut encore permettre à ces nouveaux chrétiens de grandir dans la foi, dans l'ordre que Jésus a donné, cet ordre de mission, d'aller partout dans le monde, d'annoncer la bonne nouvelle, donc évangéliser, baptiser, il y a après la troisième partie, et enseignez-leur, n'est-ce pas, à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est un ordre complet de mission qui nous est donné. Donc, donner naissance à des nouveaux chrétiens, mais aussi les nourrir, leur permettre de grandir, de servir et de devenir utile dans l'œuvre du Seigneur. Et comme je disais la dernière fois, le ministère des obstétriciens, les évangélistes, n'est-ce pas, qui est un ministère essentiel dans l'Église aussi, n'est pas tout. Il nous faut encore le ministère des pédiatres, les serviteurs de la parole qui viennent aider ces nouveaux nés à la croissance, à grandir, n'est-ce pas, qui travaillent à la croissance spirituelle de l'Église en vue du service chrétien et de l'édification de l'Église du Christ. Je pense souvent à ceux qui parmi nous se font baptiser. Ils viennent à la foi, ils se font baptiser, et souvent je me dis que on a peut-être du tort d'attendre si longtemps avant de leur donner la possibilité de faire quelque chose dans l'Église, de leur confier des responsabilités. Et je sais que 3 mois, 6 mois, 1 année, ça peut être très très long dans la vie d'un chrétien qui veut faire quelque chose pour le Seigneur et qui veut être utile dans l'œuvre du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que nous avons été sauvés pour servir. Sauvés pour servir. En plus, chacun de nous a besoin de se sentir utile, de se sentir utile dans l'Église. La parole de Dieu nous dit que comme chrétiens, nous avons été baptisés dans le corps du Christ. Nous faisons donc partie intégrale de ce corps qu'est l'Église. Et nous sommes appelés à participer activement à la vie de ce corps. Nous ne sommes pas appelés à être des membres démembrés de l'Église. À quoi sert un bras séparé du corps? Il ne sert à rien, mais à être des membres intégrés, bien intégrés dans le corps de Christ, car c'est là que nous trouvons finalement tout ce qui est nécessaire à notre croissance, à notre épanouissement spirituel. Et c'est là, avec les autres, que nous faisons avancer l'œuvre du Seigneur dans ce monde. Il nous faut donc, en tant qu'Église, et les responsables de l'Église, donner du travail, donner des services aux uns et aux autres, des services, des tâches à accomplir, les mettre au travail au nom du Seigneur. Et les serviteurs de la parole, dont il est question dans ce texte, sont là pour nourrir les enfants du Seigneur, les nourrir de sa parole, les former, les édifier, pour travailler à développer leur maturité chrétienne, afin que chacun accomplisse fidèlement son service, afin que chacun grandisse spirituellement et s'engage aux côtés des autres dans le service du Seigneur selon le don reçu. C'est un texte très riche. Nous pouvons dire encore beaucoup de choses, ce que l'apôtre Paul dit ici. Mais permettez-moi de dire encore que si on examine de plus près ce que l'apôtre Paul nous dit ici, nous constatons que ces coachs de l'Église nous sont donnés avec 3 objectifs principaux. Le texte dit « Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. » Le service. Le service. C'est l'objectif immédiat. C'est l'objectif immédiat. Le service dont nous venons de parler. La Bible nous montre que l'un des grands objectifs de l'Église dans ce monde, c'est de servir. C'est de servir les gens. Il n'y a pas de doute. Ça fait partie de sa mission. Mais il ajoute aussi 2 autres de grande envergure. D'abord, lorsqu'il ajoute à cette première phrase, il a fait don de ses hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service, en vue de la construction du corps du Christ. L'objectif, c'est aussi la construction de l'Église. L'édification de l'Église dans ce monde, son bon fonctionnement pour que les gens viennent au Christ. L'Église est l'agence du royaume de Dieu. Si les divers services confiés aux membres s'accomplissent, le corps sera édifié, il croîtra et s'affermira en recevant de sa tête, Jésus-Christ, tout ce qui est nécessaire à son développement. L'Église, on le sait bien, n'est pas une invention humaine. Elle est une idée divine. Elle est une idée divine et nous devons donc tout faire, les serviteurs de la parole en premier, pour qu'elle avance, s'édifie et accomplisse fidèlement sa mission. Et il y a un troisième objectif. J'ai mis tout ça sur le transparent pour qu'on puisse le voir, donc je vais le faire. Troisième donc, objectif que l'apôtre Paul ajoute lorsqu'il dit ceci: « Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. » Il s'agit de la croissance spirituelle du chrétien, de sa maturité et de celle de l'Église, parce qu'il dit « tous ensemble », n'est-ce pas ? « Tous ensemble à l'unité de la foi, etc. etc. » Quelle douleur, n'est-ce pas, pour des parents lorsque leurs enfants ne grandissent pas. C'est que s'ils ne grandissent pas, s'ils restent rachitiques, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est anormal, c'est anormal. Quelle peine pour le Seigneur de voir ses enfants stagner dans la foi chrétienne, de rester au rudiment de la foi chrétienne, le salut par la grâce, et ils ne vont pas plus loin que ça. Quelle peine pour le Seigneur de voir des chrétiens qui ont du mal à grandir dans leur relation avec le Seigneur. Ils ne progressent pas, ils stagnent dans la foi. Un chrétien en bonne santé grandit dans sa connaissance du Seigneur, il grandit dans sa vie spirituelle. Dans l'Église, dans une Église en bonne santé, les chrétiens grandissent, ils avancent vers la maturité. Et donc, les serviteurs de la parole doivent finalement créer les conditions idéales nécessaires, n'est-ce pas, pour que cela se passe ainsi. Créer les conditions nécessaires pour que tous dans l'Église, finalement, soient accompagnés dans leur vie spirituelle et dans leur service. Que tous grandissent et connaissent pleinement le Christ. Qu'ils connaissent le Christ, sa personne, son caractère, afin que notre vie de chaque jour ressemble finalement de plus en plus à notre modèle qu'est Jésus-Christ. En tout cas, frères et sœurs, ce qui est sûr, c'est que nous avons été choisis pour manifester dans nos vies ce que Jésus-Christ est. Si l'Église est appelée le corps du Christ, c'est que c'est l'Église qui doit manifester le Christ dans ce monde. Et l'Église, c'est chacun de nous. Est-ce que nous manifestons le Christ dans nos vies? On raconte que lors de la guerre de Crimée, lorsque l'infirmière Florence Nightingale s'occupait d'un soldat grièvement blessé, celui-ci, dans sa douleur, dans sa souffrance, s'est tourné vers elle et lui a dit « Vous êtes le Christ pour moi. Vous êtes le Christ pour moi. » Le chrétien est celui, dit la parole, en qui Jésus-Christ vit. Nous devons être le Christ pour les gens autour de nous, pour les gens de ce monde qui ne le connaissent pas. Voilà pourquoi nous avons besoin les uns et les autres de l'Église, de grandir dans la connaissance du Seigneur, dans la communion fraternelle, de progresser dans la vie chrétienne et de servir le Seigneur. Le terme de cette croissance sera notre parfaite conformité avec le Christ dans la gloire. Jusque-là, il nous faut avancer, il nous faut toujours progresser, toujours croître. Nous voyons donc, pour terminer, que le rôle que le Seigneur confie aux coachs de l'Église est un rôle très important, n'est-ce pas? Ce sont eux qui, grâce à l'enseignement de la parole de Dieu, donnent le cadre pour l'épanouissement des uns et des autres, afin que chacun serve le Seigneur avec joie selon ses dons. Ceci dit, l'édification de l'Église est l'affaire de chacun de nous, est l'affaire de nous tous, et pas simplement des responsables de l'Église, des coachs de l'Église, comme je viens de le dire. Chacun de nous peut être le coach pour son frère ou sa sœur. Peut-être pas dans tous les domaines, mais au moins dans tel ou tel domaine. En suivant, bien sûr, l'exemple du coach suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Lui, pendant trois années de ministère terrestre, a entouré ses disciples avec beaucoup d'amour, les a accompagnés et les a formés en leur donnant un bon enseignement et des conseils sages. Et la question que j'aimerais poser pour terminer cette prédication est celle-ci. Quel que soit le rôle ou la fonction que j'occupe dans l'Église, quel que soit le service que j'accomplis dans l'Église au nom du Seigneur, comment se manifeste réellement ma participation au bon fonctionnement du corps du Christ? Comment se manifeste concrètement ma participation au bon fonctionnement du corps du Christ, ici à Clermont-Ferrand, à l'église baptiste de Clermont-Ferrand? Qu'est-ce que je fais pour que l'église soit édifiée? Qu'est-ce que je fais en vue de son unité? Qu'est-ce que je fais pour qu'elle grandisse en maturité et pour qu'elle accomplisse fidèlement sa mission? Suis-je en train de contribuer positivement au plan de Dieu pour son Église, particulièrement ces moments de transition pour notre Église, n'est-ce pas? Sans doute que le Seigneur appelle chacun de nous à revoir sa position au sein de l'Église, à réfléchir à son rôle, à son service, à sa consécration. Le Seigneur appelle chacun de nous à contribuer à la construction et à l'édification du corps par une marche digne de l'appel qu'il nous a adressé à chacun de nous et par une vie dont Jésus-Christ est finalement le centre. Que le Seigneur bénisse sa parole.